Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle interview de CryptoCoulisses. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Rosselli, directeur général France et Benelux de la néobanque allemande N26. Alors que beaucoup de banques traditionnelles voient toujours la crypto d'un mauvais œil, d'autres acteurs comme Revolut ont intégré les cryptos à leur offre déjà depuis quelques années. Du côté de N26, la néobanque permet à ses clients d'acheter et de vendre des cryptoactifs depuis déjà quelques semaines. Et on va discuter de ce grand changement avec Jérémy. Je vous souhaite un très bon épisode. Salut Jérémy.
Salut.
Ravi de faire cette interview et d'en savoir un peu plus sur les raisons qui ont poussé N26 à se lancer dans la crypto. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer quand est-ce que toi, tu as rejoint N26?
Alors moi, j'ai rejoint N26 en 2016, donc il y a 7 ans. Alors, la blague, c'est que j'étais déjà chauve, hein, donc c'est pas ça qui m'a fait perdre mes cheveux. À l'époque, c'était une petite start-up à Berlin avec une centaine d'employés. Donc tout le monde m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire dans une start-up à Berlin. La réalité, c'est que c'était le moment où bah, justement, il y avait tout ce vent de digitalisation et ça n'avait pas encore atteint la banque, donc il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et c'était une start-up en Allemagne, c'est-à-dire qu'en France, on connaissait vaguement les banques en ligne, mais on n'était pas du tout encore dans la banque mobile, on n'était pas du tout dans le fait que bah, justement, une banque, une nouvelle banque, une boîte de tech puisse révolutionner le monde de la banque. Donc c'est pour ça que je les ai rejoints à l'époque. Et 7 ans plus tard, maintenant, on a plusieurs millions de clients en France, plusieurs millions en Europe. Et on a lancé la crypto il y a quelques semaines en France.
Ouais, bah justement, on va revenir là-dessus. Déjà, pour comprendre, toi, quand tu es arrivé chez N26, c'était pour lancer la France? C'est-à-dire que la France n'était pas encore lancée. Ton but, ça a été de lancer la France directement
Yes. Alors d'ailleurs, ça, c'est une anecdote que j'adore raconter. Il n'y avait pas de job chez N26. Moi, je leur ai envoyé un email 3 mois plus tôt en leur disant, écoutez, j'ai déjà lancé une marque B2C en France, Burger King, depuis l'Allemagne. J'ai déjà vendu des banques, je suis ingénieur. Si à un moment vous voulez vous internationaliser, notamment en France, rappelez-moi. Et 3 mois plus tard, ils m'ont rappelé, ils n'avaient pas de job desk, hein. C'est même pas de process, si tu veux, de recrutement. Mais simplement, ils avaient compris que s'ils voulaient, bah, du coup, aller à l'international, et ça faisait partie de l'ADN de la boîte, hein, parce que tout était déjà écrit en anglais. Aujourd'hui, j'ai vérifié la semaine dernière, on a 90 nationalités, donc c'était vraiment, ça faisait partie de l'ADN de se développer international, et en Europe notamment. Bah, ils m'ont rappelé et du coup, bah, c'est comment est-ce qu'on se lance en France et comment est-ce qu'on développe le marché français, considérant que j'étais tout seul. Oui. Et qu'aujourd'hui, on voit une grande banque, hein, mais à l'époque, c'était une centaine d'employés en incluant le service client. Si je te raconte mes premières semaines, ça a été traduire le site web en français parce que c'était mal traduit mécaniquement quand tu es dans une banque. Ou quand tu veux investir ton argent dans les cryptos, si c'est mal traduit typiquement, bah, tu fais pas confiance. Quand on parle d'argent, on parle pas de photos, là, on parle d'argent, donc c'est
un sujet très sérieux. Ouais.
La confiance dans le monde de la banque et dans le monde des cryptos, c'est quelque chose qui est extrêmement clé. Et puis mécaniquement, tu découvres les tâches au fur et à mesure, donc lancer la France, lancer les différents produits au fur et à mesure. Puis il y a 7 ans, hein, donc je vais peut-être pas tout te raconter, mais il y a beaucoup de choses. Ouais,
j'imagine. Et juste dans les grandes lignes, parce que c'est vrai que par exemple, si on prend tous les gros exchanges internationaux qui sont lancés en France, Binance, Kraken, Coinbase, à chaque fois, enfin, ça a peut-être souvent mis du temps, mais au bout d'un moment, ils avaient un directeur général France. Toi, comme tu es arrivé vraiment au tout début, à quoi ça ressemble de lancer un pays en fait? C'est quoi un peu les grandes tâches? Donc, tu as parlé de la traduction du site, mais j'imagine après peut-être les campagnes de marketing, recruter une équipe.
Tu n'en es même pas là en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même de. Parce qu'on voit, il y a ce qu'on voit, mais en fait, et c'est pour ça souvent que tous les exchanges et toutes les boîtes de tech, quand elles se lancent en France, en général, elles commencent par le haut parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui va être capable de leur faire leur roadmap industriel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir faire.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? La première chose, ça a d'abord été déjà de construire, de se poser la question qu'est-ce qu'il faut comme produit, qu'est-ce qu'il faut faire opérationnellement. Hein. Donc ça veut dire, c'est passer par créer un process de localisation, ça veut dire chercher des avocats, parce que justement, en fait, quand on est dans de la banque, quand on est dans ou dans de la crypto, ou tout ce qui est réglementaire, en fait, c'est un aspect qui est extrêmement critique. Donc, il faut bien faire les choses dès le départ. Donc, c'est notamment tout l'aspect juridique et réglementaire qu'il faut mettre en place. Ça nous a occupés, ça nous occupe beaucoup. Et mécaniquement, ça nous occupera beaucoup tout le reste de notre vie. Donc, ça, c'est assez clé. C'est pour ça qu'en fait, avant même de commencer à parler de marketing, il y a toute l'infrastructure réglementaire, organisationnelle à mettre en place. Et après, tu commences à recruter des équipes marketing. Mais avant ça, en fait, ce que les gens ont du mal à voir, c'est que avant de recruter des clients, il faut être capable de leur fournir un produit qui marche opérationnellement Et il faut être sûr, et ça, c'est la baseline, si tu veux, quand tu es dans du réglementaire, c'est pas optionnel, c'est pas progressif, il faut être dans les clous. Donc ça, c'est les choses à faire, quoi qu'il se passe, dès le départ.
Ok, ouais, parce que j'imagine, même en termes de régulation, il y a des spécificités à chaque pays, et peut-être aussi d'ailleurs des fonctionnalités propres à chaque pays. Donc j'imagine qu'il a fallu aussi peut-être identifier ces points réglementaires, ces fonctionnalités, pour ensuite s'adapter.
Alors, la chance, c'est que c'est des réglementations qui sont censées être européennes.
Oui.
La réalité, on se bat toujours, et je vais me battre de plus en plus, c'est pour qu'elles soient appliquées de la même façon dans les différents pays. La réalité, c'est que la même réglementation européenne, aujourd'hui, alors on parle de KYC, donc c'est quand on ouvre un compte en banque, mais c'est quelque chose qui est en train de se transposer aussi mécaniquement pour les wallets de crypto, on est obligé de connaître son client, donc ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Ça, c'est une réglementation européenne, simplement, en fait, elle est développée différemment dans les différents pays. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu veux ouvrir un compte à distance dans les différents pays, c'est pas la même réglementation, donc c'est souvent... faut appliquer des standards différents, faut avoir des fournisseurs différents, donc c'est pour ça que c'est extrêmement complexe, ne serait-ce qu'au niveau européen.
Ok. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur l'impact de la réglementation MiCA sur votre activité, qui est censée être une réglementation européenne.
Ouais.
Déjà, pour commencer, voilà, j'ai envie de poser cette question, qu'est-ce qui a poussé N26 à se lancer dans la crypto ?
Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je pense qu'il faut comprendre, c'est que N26, c'est une banque, mais c'est surtout une boîte de tech qui fait de la banque. Donc on est structuré comme une boîte de tech avec beaucoup d'ingénieurs. Philosophiquement, on a du produit. On est tous relativement jeunes, hein, même si j'ai perdu quelques plumes. Et ça a toujours été un sujet qui était sur la table depuis, allez, on va dire au moins 5 ou 6 ans. Donc on a toujours beaucoup discuté. La réalité, c'est que notre positionnement et notre approche, ça a toujours été d'être une banque du quotidien, d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus large de la banque. Donc on avait la demande de certains de nos clients qui nous demandaient, oui, on aimerait faire des cryptos, N26 c'est génial, c'est simple, pourquoi vous ne faites pas de la crypto ? La réalité aussi, c'est que c'était une demande qui venait probablement d'1% de nos clients et qui était une demande encore extrêmement faible à l'époque. Donc ça a toujours été dans les tuyaux, on s'est toujours posé la question. Je pense que si je regarde dans mes mails, dans mes fichiers, depuis le début on se posait la question de la crypto. Là où on s'est reposé la question, c'est peut-être il y a quelques années, il y a, on va dire, 2 ans, où finalement, on s'est rendu compte que là, c'était pas simplement une demande d'1% de nos clients, c'était une demande beaucoup plus large. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, là, il va falloir qu'on avance sur ce sujet-là. Et bien entendu, on voulait faire avec notre ADN, donc simplement pour nos clients. Et comment est-ce qu'on peut démocratiser, si tu veux, l'accès à la crypto ? Parce qu'on sait très bien qu'on ne remplacera pas les spécialistes, on n'est pas un pure player. Et je pense qu'il y a, de la place pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, les chiffres le parlent. Je pense qu'il doit y avoir 20%, 30% de personnes qui ont entendu parler des cryptos, même si on pense que plus on investit, je pense que la réalité est quand même encore assez faible. Donc nous, on se positionne plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de crypto, la première fois qu'elles veulent justement se lancer dans les cryptos, sans avoir à comprendre comment ça marche un wallet, comment toutes ces choses-là marchent, elles peuvent essayer avec N26 de façon extrêmement simple.
Ok. Alors, c'est vrai que si on prend un de vos concurrents, donc Revolut, qui est une néobanque d'origine UK, eux, ça fait des années qu'ils permettent d'acheter des cryptos. Est-ce que le fait que Revolut soit lancé là-dedans, ça vous a un peu mis la pression ? Enfin, en gros, ma question, c'est si Revolut ne l'avait pas fait, est-ce que ça aurait pas mis plus de temps sur N26 pour intégrer...
Pas du tout,
non.
Non. Et la réalité, c'est qu'ils l'ont fait il y a très longtemps.
Oui, vous avez
attendu. Et je pense que c'est ça qu'ils ont porté aussi pendant un certain temps, parce qu'il y a eu pas mal de bull market sur ce sujet-là, et ça n'a pas changé notre approche. Nous, en fait, la réalité, c'est qu'il y a assez de place pour beaucoup d'acteurs, et on se concentre sur ce qu'on doit faire, quelles sont les attentes de nos clients, si tu veux. Donc, on a vu, on a très bien compris, mais c'est eux, ils l'ont lancé justement à l'époque où ça concernait 1% du marché, où là, nous, on préférait justement se concentrer sur comment est-ce qu'on est capable de devenir la banque du quotidien de la majorité de nos clients.
Ok. Alors, il y a un vrai sujet quand on parle de crypto et de banque. C'est vrai que par le passé, tu as quand même beaucoup d'utilisateurs de banques qui ont une mauvaise expérience parce qu'en fait, ils voulaient faire un virement vers un exchange, hein, un Coinbase, Kraken, peu importe. Et souvent, leurs banquiers, souvent des banques tradies d'ailleurs, hein, leur disaient non, pourquoi vous voulez faire un virement vers une plateforme d'échange qui était prêt aussi à bloquer finalement ces virements. C'est quoi pour toi le rapport des banques face aux cryptos aujourd'hui, sachant que vous, vous êtes une néobanque, donc vous êtes peut-être dans la partie gentille de l'écosystème bancaire, je ne sais pas.
C'est gentil de nous mettre du bon côté.
Non, je ne sais pas, je parle des néobanques de manière générale. Après, peut-être que chaque néobanque a ses spécificités.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, il faut comprendre que N26, comme ça reste une banque comme l'ensemble des acteurs aussi traditionnels, hein, donc c'est la même réglementation. Et la réalité, c'est qu'on est obligé d'appliquer la réglementation, notamment contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé. Et toutes les banques sont obligées de respecter cette réglementation. Et notamment, bah, ça veut dire qu'on est obligé de s'assurer que les fonds ne vont pas partir financer ou revenir ou sont issus d'activités illicites. Donc ça, c'est une de nos obligations. Mmh. Et mécaniquement et structurellement dans les cryptos, on va pas se mentir aussi, c'est fait pour être décentralisé et justement pour ne pas... ça répond à certains besoins illicites. Donc la réalité, c'est qu'on a deux mondes qui s'opposent, celui des banques qui ont l'obligation de vérifier ça, et d'autre côté, des plateformes qui, justement, ou un monde en plus généralement, qui est fait pour ne pas être régulé. Donc c'est la difficulté. Et c'est pour ça que la plupart des acteurs traditionnels, en général, quand ils ne savent pas, ils ne se posent pas de questions, ils bloquent et ça ne marche pas. Donc ça c'est l'approche plus traditionnelle. Ouais. L'approche d'N26, c'est de dire, OK, nous, on comprend un petit peu plus, ça fait partie de notre ADN. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos clients puissent trader, puissent échanger des cryptos, être exposés à ça, sans être bloqués par leur banque? Parce que nous aussi, hein, de temps en temps, on pose des questions à nos clients lorsqu'ils veulent échanger. C'est la réalité aussi, on leur demande pourquoi telle ou telle transaction. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? On le fait avec notre façon de faire, donc encore une fois, extrêmement simplement pour les clients, mais on le fait aussi de façon à ce que justement ça soit maîtrisé et que les clients puissent avoir accès donc du coup aux cryptos, mais sans avoir à être bloqués justement parce qu'ils soient obligés d'envoyer de l'argent vers une partie tierce et où on n'a pas justement la visibilité et l'explication sur la façon dont ça marche.
Ouais, alors c'est vrai que moi, je trouve que ça interroge quand même pas mal. Alors, quand je parlais des banques qui refusaient des virements, c'est souvent, en fait, tu as des banquiers qui vont dire à des clients, voilà, je sais que vous êtes quelqu'un qui ne va pas faire du blanchiment. Par contre, l'investissement que vous voulez faire en crypto, nous, on considère notre banque que c'est une arnaque. Et donc, du coup, on ne va pas vous laisser faire ça.
Ah oui, ça aussi, c'est une autre... Donc, il y a le premier pan qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais il y a l'autre aussi où on a une obligation en tant que banquier de protéger les clients. Ça, on l'oublie souvent parce qu'on prend les banquiers pour des méchants. La réalité aussi, et on en voit beaucoup. Je pense que les chiffres en France, c'est plus d'1 milliard d'euros par an de personnes qui perdent de l'argent dans des schémas frauduleux. Donc, on est aussi là pour empêcher ou en tout cas... faire comprendre aux clients et essayer de les empêcher, justement, dans certains cas, quand on pense que c'est des choses frauduleuses, les empêcher de perdre leur argent. On ne se rend pas compte, et merci justement de nous donner la parole. Il y a beaucoup, justement, malheureusement, de schémas frauduleux là-dedans et de personnes qui ne connaissent pas et qui perdent de l'argent. Donc, c'est aussi le rôle des banques de bloquer, de les empêcher, de les éduquer sur des schémas qui pourraient être extrêmement compliqués. Donc là aussi, elles sont dans leur rôle, c'est une obligation. Mmh. Et en l'occurrence, dans certains cas, la banque peut être obligée de rembourser parce qu'elle a laissé passer des transactions où clairement... Alors, je ne vais pas donner d'âge parce que je suis désolé, ça serait dire que les cryptos, c'est que pour les jeunes. Mais la réalité aussi, c'est qu'on voit des personnes qui peuvent être, par exemple, plus âgées, qu'on amène ou à qui on demande de faire des virements sur des plateformes crypto. On a une petite idée que malheureusement, c'est en général, pas pour tout le monde, ça peut être des schémas de fraude.
Ouais, mais je comprends également ce raisonnement et cette contrainte, mais c'est vrai que ça peut interroger quand même sur la souveraineté monétaire quand on a de l'argent en banque, de ne pas pouvoir en disposer comme on le souhaite. Mais c'est vrai que c'est un arbitrage qui est assez compliqué à faire, en fait.
Ah, mais c'est pour ça que normalement, et ça coûte extrêmement cher d'ailleurs aux banques, de poser la question aux clients. Donc, et en plus, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent savent très bien que quand la banque leur envoie un email, c'est pas la priorité de leur répondre. Mais la réalité, c'est que nous, en fait, en tant que banque, en fait, on va poser la question aux clients en lui demandant, est-ce que c'est vraiment une transaction que tu veux faire, d'abord? Est-ce que, pourquoi est-ce que tu veux vraiment faire cette transaction? Et ainsi de suite, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de fraude derrière. Mais ça demande beaucoup de travail. Et il y a un juste équilibre à essayer de trouver. En tout cas, même opérationnellement, nous, on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on rend la chose simple auprès de nos clients, parce que c'est des choses qui arrivent dans les cryptos, mais d'ailleurs pour d'autres types d'investissements.
J'imagine qu'il y a peut-être un travail d'éducation aussi à faire sur les clients pour s'assurer que quand ils investissent en crypto, ils savent ce qu'ils font, pour aussi peut-être avoir moins de bloqueurs pour
Mais ça, c'est quand on fait avec des plateformes extérieures. Après, nous, il y a le setup d'N26 où justement, c'est entièrement intégré. Donc justement, on n'a pas toutes ces contraintes-là où on va demander de justifier les transactions, parce que mécaniquement, on sait que c'est notre client.
Ouais.
On sait que l'argent, il est entre nous et notre partenaire. Donc de toute façon, c'est un écosystème qui techniquement est fermé. Donc là aussi, on sait qu'il n'y a absolument aucun risque. Et donc mécaniquement, on est capable de simplifier l'expérience de nos utilisateurs et de ne pas avoir à leur demander notamment de justificatif, parce que c'est de l'argent qui est chez nous et qui va chez un partenaire.
Et d'ailleurs, est-ce que vous considérez que vous avez une part de responsabilité du coup sur les tokens que vous allez lister pour pas qu'il y ait des scams entre guillemets qui se retrouvent listés sur N26, parce que avec un risque finalement que les clients de N26 se retournent contre vous
Aujourd'hui, typiquement, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Bitpanda.
Ouais, on est
super transparent là-dessus. Ouais. Et c'est aussi tout l'intérêt, c'est d'avoir un acteur qui est régulé en Europe, donc qui a la réglementation quand même qui est la plus élevée au monde, a priori. Ouais. Et ça, c'est leur responsabilité. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait avec un partenaire qui s'y connaît. C'est aussi parce que c'est le monde de la banque, c'est un manque de confiance. Et il faut que tous les acteurs soient au même niveau de confiance, donc c'est pour ça qu'on l'a fait avec eux. Typiquement, dans ces cas-là, c'est eux qui sont responsables, mais on sait aussi qu'ils appliquent les meilleurs standards pour ces sujets-là.
Ok. Et toi, tu considères, si on prend surtout les acteurs bancaires traditionnels, est-ce que tu considères qu'il y en a quelques-uns ou la plupart aujourd'hui qui sont un peu anti-crypto ou qui commencent à changer peut-être aussi leur regard sur les cryptos, notamment depuis le ETF Bitcoin qui a été officialisé début janvier?
Alors, je pense qu'il y a... Je ne connais pas toutes les stratégies de toutes les banques traditionnelles. La réalité, c'est que le seul que je vois, ça a été la Société Générale avec Aforge.
Tout à fait.
Donc, eux, et sur des cas précis, en l'occurrence, il y a des vrais cas d'usage.
Stablecoin, tokenisation.
Donc, eux, ils ont des vrais cas d'usage. Les autres, pour le moment, je ne les ai pas vus très actifs sur ces sujets-là, voire même très loin. Après, la réalité aussi, c'est que la crypto... est plutôt quand même structurellement en fait pour pas être régulé, pour être décentralisé et pour s'affranchir des banques. Donc mécaniquement, si vous voulez, la mentalité d'un banquier traditionnel, c'est je connais pas, c'est risqué et en plus la marge, c'est peut-être pas nécessairement moi qui vais la faire. Donc mécaniquement, c'était compliqué, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ceux qui rentrent, ou en tout cas, on voit un phénomène d'américanisation finalement.
Ouais.
Eux, ils commencent à tout rapatrier chez eux, à mettre leurs propres règles, et puis à construire... un banquier veut construire ses produits. Donc mécanique, parce que c'est là où ils vont gagner de la marge. Donc c'est aussi là ce qu'on commence à voir avec BlackRock et toutes ces choses-là aux États-Unis.
Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que les banques qui ne vont pas prendre le virage de la crypto, qui vont le prendre trop tard, vont être vouées à en subir les conséquences plus tard niveau business?
Oui, après aujourd'hui la crypto ça reste encore je pense que c'est pas encore tout le monde ne connaît pas encore la crypto, donc il y a encore le temps de rattraper, mais je pense que c'est les banques qui ne vont pas vers la crypto, ça, c'est surtout une question de mindset et d'approche. Ça veut dire aussi qu'elles veulent pas innover, qu'elles veulent pas se poser de questions, elles veulent pas prendre de risques, elles veulent pas il y a une question d'approche. Je pense que il faut aussi vivre avec son temps, il faut vivre avec le mobile, il faut vivre avec les nouveaux produits, et je pense que le métier de banquier, c'est aussi d'être capable d'expliquer, de démocratiser et de simplifier ces aspects-là pour leurs clients, mais encore une fois, de façon responsable. Donc ils ont la responsabilité aussi de ne pas les exposer, en tout cas de les exposer de façon mesurer à des risques et de mesurer le risque et d'expliquer le risque auprès de leurs clients. C'est aussi compliqué. Hein.
Mais d'ailleurs, ça soulève une autre question, c'est-à-dire que le fait de maintenir tes clients vers un écosystème que en fiat, que ce soit euro-dollar, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ces monnaies aussi se dévaluent dans le temps? Et que, bah après, c'est des sujets un peu plus long terme. Hein, mais,
c'est philosophique. C'est philosophique à ce niveau-là. Nous, on fait un peu moins de philosophie, on est beaucoup plus pragmatique. On se dit que de toute façon, comme on l'a fait sur les cryptos et sur beaucoup d'autres sujets, on verra les choses évoluer, et quand les choses évolueront, on sera capable de s'adapter aussi. Que ça soit, c'est sur les cryptos, mais l'usage du mobile, des cartes de paiement, et ainsi de suite. Nous, on se pose plutôt la question de, on va voir les choses évoluer, et à ce moment-là, on sera capable d'innover, de comprendre comment les choses, et d'agir beaucoup plus rapidement que n'importe quel autre acteur. C'est ça, nos positionnements. Donc, un exemple concret, le Covid est arrivé, la Poste était compliquée. On s'est rendu compte, en Italie, la Poste ne marche plus. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a été capable d'innover. On s'est dit, OK, le problème, c'est que les personnes ne peuvent plus recevoir leur carte. On est capable de les rendre actifs directement dans les smartphones au moment où les clients ouvrent leur compte. Donc ça, c'est une capacité d'innovation et d'adaptation qu'on a. Et on verra dans des années comment les choses évolueront. Mais à ce moment-là, on sera quand même très bien positionné pour ce sujet.
Ça marche. Et pour comprendre un peu le monde bancaire aujourd'hui, est-ce que d'un côté, on a les banques traditionnelles et de l'autre côté, les néobanques, où il n'y a pas forcément... Enfin, je veux dire, comment les néobanques sont perçues par les banques traditionnelles ?
Comment les néobanques sont perçues ? Pendant très longtemps, on était regardé de très très haut, comme un épiphénomène qui ne marchera pas. Donc ça, je pense que... Et en plus, encore plus en France, je pense qu'on l'a vu. Après, on s'est rendu compte qu'on était quand même capable de manger des parts de marché. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la part d'ouverture de compte net en France, entre les néobanques plus les banques en ligne, on doit être pas loin de 90% ou 100%. Donc la réalité, c'est que tout le marché, toute la croissance du marché, en tout cas maintenant, elle se fait sur ces segments-là. Après, il reste quand même je ne vais pas dire un phénomène de rente, mais c'est aussi compliqué de changer de banque. Alors, il y a la loi Macron, mais la réalité, c'est que c'est quand même des produits qui sont un petit peu complexes. Néanmoins, on va voir que les choses vont s'accélérer. On voit que les choses commencent à s'accélérer déjà en Europe et dans pas mal de pays où il y a des acteurs, des néobanques comme nous, mais d'autres, qui commencent à avoir plusieurs millions de clients. Et donc, ils commencent à avoir la taille critique même des banques traditionnelles. Les deux coexisteront. Par contre, clairement aussi, il y aura probablement certaines banques traditionnelles. Malheureusement, ça va être compliqué pour plein de raisons opérationnelles, financières ou mécaniquement. On arrive à un stade où N26, typiquement, on s'est lancé, on avait une carte, un compte. Maintenant, on a une carte, un compte, du crédit, de l'épargne, de l'investissement, des cryptos. Mécaniquement, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans le marché du travail et se pose la question d'avoir un compte en banque, il y a plus de chances qu'il ouvre un compte chez N26 que chez un acteur traditionnel. Donc oui, la réalité, elle est là, ouais, ça change.
Ouais, bien sûr. Alors, on va pas rentrer là dans ces considérations-là non plus, mais ça interroge aussi sur le rôle, la pertinence d'avoir en fait une agence bancaire physique avec un conseiller. C'est des questions qu'on va pas aborder, mais qui se posent aussi avec...
Je donnerai juste un chiffre. Il y a 50% des agences bancaires qui sont européennes, qui sont en France.
Bon, c'est une bonne stat, effectivement. J'aimerais un peu parler de l'offre crypto de N26. Déjà, qui vous ciblez avec cette offre-là ? Un autre point intéressant, j'avais entendu aussi que selon les pays... les gens n'ont pas la même culture, la même mentalité, et donc ne vont pas consommer les mêmes produits. Par exemple, entre l'Allemagne et la France, je pense qu'on n'a pas du tout le même mindset. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus
Sur les différences culturelles, oui. on le voit et on le mesure sur l'ensemble des produits, d'ailleurs. Nous, on voit typiquement qu'en France, nous, on vend des produits premium, donc avec des abonnements Smart, You et Metal, cartes Metal. En France, c'est le marché qui marche le mieux, parce que les clients français, typiquement, ont l'habitude de payer pour leur compte en banque, là où, typiquement, en Espagne, les clients n'ont pas l'habitude de payer pour leur compte en banque, mais ils ont l'habitude de payer pour un virement. Donc les choses les habitudes sont différentes. Après, la première question...
C'est sur les habitudes d'investissement, c'est-à-dire que c'est quoi le rapport à l'investissement entre l'Allemagne et la France
Les Français, de manière générale, sont très frileux, sont très risque-averses. On le voit, de toute façon, si vous donnez 1000 euros à un client français, la première chose qu'il va faire, c'est le mettre sur un livret A. c'est la réalité, si vous posez la question, 80% des clients, la première chose qu'ils vont faire, c'est un livret A. Le trading, c'est encore... c'est des choses qu'on va lancer, mais on voit qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts à ça, notamment typiquement l'Allemagne, où on voit que pendant le Covid, c'est des choses qui ont beaucoup marché. Et sur les cryptos, donc, qu'on a lancé il y a quelques semaines en France, on voit justement que la courbe la courbe de, pas d'acquisition, mais d'utilisation en fait, des produits crypto, la France, pour le moment, est un des pays qui, enfin, le pays qui, d'ailleurs, qui croît le plus rapidement, parce qu'il y a cette demande, probablement, de simplification d'accès aux crypto. Et la première partie de ta question, c'est à qui ça s'adresse. Ça s'adresse justement aux personnes qui veulent faire leur premier pas, en fait, dans la crypto. Mmh. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, comme tu as pu un petit peu l'expliquer, bah, quand tu as une banque traditionnelle et que tu veux faire un virement vers une plateforme crypto, déjà c'est compliqué. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il faut, faut s'adresser à une plateforme crypto et il faut faire un virement. Déjà, ces deux choses-là sont extrêmement compliquées. Donc nous, on ne s'adresse pas nécessairement aux spécialistes. On s'adresse plutôt aux personnes qui veulent découvrir la crypto. Je pense que toi comme moi, on a vu beaucoup qui t'ont approché et qui disent « Ah ouais, c'est cool, comment est-ce que je fais pour... j'ai envie de mettre 500, 1000 euros ou 300 euros par mois, je veux juste découvrir un petit peu. » Et là, tu te dis « Ok, la réponse, elle va pas être super simple. Ouais. » Nous, on s'adresse vraiment à ces personnes-là qui se disent « Ok, j'ai envie d'essayer, je veux comprendre, je veux découvrir progressivement pour la première fois. » Ça, c'est vraiment... c'est aujourd'hui toute la croissance du secteur. Elle se fait justement pas sur les spécialistes qui sont là depuis de nombreuses années, en tout cas... On va dire, je pense, depuis au moins 4 ou 5 ans, elle se fait surtout sur toutes les personnes qui veulent découvrir. Et d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup de personnes qui t'écoutent sur comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on peut, on peut en rentrer et découvrir facilement ce milieu-là.
Oui, complètement. Les mêmes types d'utilisateurs qui pourraient acheter sur Revolut, sur Lydia, en fait, leur crypto pour un premier... juste pour une première expérience. Parce que c'est vrai que, bon, il y a quand même des freins à l'entrée à faire un virement, je ne sais pas, vers Coinbase, acheter sur Coinbase, créer un compte, etc. Bon, il y a des personnes qui s'accompagnent.
Je pense que la différence, elle est surtout que... t'as ton compte en fait, c'est-à-dire que c'est pas tu vas ouvrir un compte spécialement pour ça en fait chez N26, en fait t'as ton compte en banque qui va te permettre de vivre tous les jours, de faire tes paiements, tes achats en magasin, dans les transports, payer ton loyer, bref, avoir une vraie vie de tous les jours. Et le jour où tu veux te poser la question, tiens, j'ai envie d'essayer les cryptos, c'est juste un clic, c'est directement dans l'application, c'est la même application, c'est expliqué très simplement et en toute transparence, parce que ça aussi, c'est quand même extrêmement clé, notamment dans les cryptos, parce que en l'occurrence, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est quels sont les coûts de transaction, quels sont, comment ça fonctionne. Et ça aussi, c'est là où on essaie de se différencier, d'être vraiment super transparent sur comment est-ce qu'on va proposer nos offres à nos clients.
Ok. Je trouve ça intéressant de revenir sur la manière. Comment ça s'est passé en fait, l'implémentation de ce service crypto? Comment, c'était quoi les étapes en interne pour créer vraiment ce service crypto? Par quelle phase vous êtes passé entre l'idée jusqu'au lancement en fait?
Ça a été, en l'occurrence, ça a été super simple et extrêmement rapide, ouais. La décision, l'avantage aussi, c'est que dans une boîte, je pense qu'on se considère encore comme une start-up, donc l'avantage aussi, c'est qu'on est capable de prendre des décisions assez rapidement. Après, la question, c'est comment. Là aussi, nous, sur ces sujets-là, on sait que soit on est capable d'inventer quelque chose et de le faire mieux, donc on le fera nous-mêmes, soit on s'adresse à un pure player. Là, en l'occurrence, on savait que ça serait plus simple d'utiliser un pure player, un partenaire pour faire ça. En l'occurrence, il n'y a pas non plus beaucoup de... Donc, comment ça se passe? Tu regardes quels sont les acteurs avec qui tu vas pouvoir créer un partenariat.
C'était quoi d'ailleurs les acteurs? Donc, il y a Bitpanda avec lequel vous travaillez, mais c'était quoi les autres acteurs?
Je peux le dire, mais la liste n'était pas non plus très très longue sur ces sujets-là. Nous, il y a une dimension aussi qui est importante quand on choisit un partenaire. Il y a à la fois la partie technique, donc est-ce que ça va bien marcher. Ce qu'on a appris d'ailleurs dans le temps, c'est qu'il valait mieux que les ingénieurs se parlent entre eux avant même de signer les contrats, comme ça au moins on sait si ça va fonctionner ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce qu'ils sont partout en Europe, parce que nous aussi il y a un sujet où quand on veut lancer un produit, on veut le lancer pas seulement dans un pays mais pour l'ensemble des pays, donc aussi c'est une dimension qui est clé. Et sur le sujet de la crypto, il y a le sujet de la réglementation. Donc, est-ce que le partenaire a le bon niveau d'accréditation? Et est-ce qu'il est dans la bonne mouvance aussi d'un point de vue réglementaire? C'est-à-dire que, aussi, philosophiquement, ils veulent respecter la réglementation et le faire dans le futur. Donc, c'est un peu les trois critères qu'on a utilisés. Et dernier aussi, non pas des moindres, mais notre siège est à Berlin. On est allemand dans l'ADN, mais aussi nos fondateurs sont autrichiens. Et petit point commun avec Bitpanda. Donc, ça aussi, c'est des choses où bêtement et simplement, ça marche aussi et ça facilite les échanges.
Ok. Et c'est vrai que Bitpanda, donc pour le rappeler, c'est ce qu'on appelle un broker. Donc en fait, eux, ils vont se pluguer à des plateformes d'échange centralisées type Coinbase, Binance, Kraken, etc. Donc c'est-à-dire que quand tu achètes des cryptos sur Bitpanda, mécaniquement, tu vas les payer plus cher que si tu les achetais sur Kraken, parce qu'il va y avoir la commission de Kraken, puis par exemple celle de Bitpanda. Et donc, c'est-à-dire que quand tu achètes des cryptos sur N26, il va y avoir la commission de N26, celle de Bitpanda et celle des exchanges type Kraken, Coinbase. C'est quoi la répercussion sur le prix? C'est-à-dire, c'est quoi le spread, donc le décalage entre si j'achetais par exemple du Bitcoin directement sur Kraken vs N26, c'est quoi un peu
J'ai pas tout le spread.
Mais c'est quelques pourcents en tout cas, j'imagine.
J'ai pas tout le spread. Nous, je sais que les frais qu'on va facturer au client qui a priori, non, j'imagine que ça intègre l'ensemble de l'échelle de valeur. Typiquement, sur du Bitcoin, ça va être 1% si t'es client métal. Ok. 1,5 si t'es client dans les tiers d'en dessous, et 2,5 sur les autres cryptos. Après, je pense que ce qui est important d'expliquer, c'est deux choses. La première, c'est que on est transparent sur ces coûts-là. Je pense que c'est tout sauf le cas de beaucoup d'acteurs. Et je pense que pour avoir regardé un peu l'écosystème de l'intérieur depuis très longtemps, parce que j'ai découvert les cryptos avant même N26, moi, à l'époque, le Bitcoin était à 300 $.
Ah, donc t'es un vieux de la vieille. C'est quoi? C'est avant à peu près 2014
2015, 2013, ouais. C'est le moment où je regardais vraiment ces sujets-là. Bref.
T'avais déjà investi d'ailleurs en crypto à ce moment-là?
Malheureusement, non. Mais maintenant, j'ai appris la leçon. Quand il y a quelque chose, il faut mettre un peu d'argent dessus. Puis ouais. Mais l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais au moins ça vaut le coup. Mais non, il y a un vrai sujet de transparence même dans l'écosystème où finalement les frais end-to-end pour le client finalement sont peu transparents, et ça c'est important aussi, c'est pour ça qu'on veut se distinguer aussi là-dessus. Ça reste quand même des produits où les frais sont quand même extrêmement élevés quand on regarde par rapport à d'autres produits, donc c'est important aussi d'être capable d'être transparent avec les clients.
Ouais. Alors c'est vrai que moi je trouve que quand tu vas sur des plateformes type Kraken, Coinbase, alors plutôt Coinbase Pro que le Coinbase classique, mais tu sais à quelle sauce tu vas te manger. Et en général, les frais, c'est de l'ordre, on va dire, de 0,2% à peu près, plus ou moins. Mais les frais sont annoncés, je veux dire, il n'y a pas de frais magiques en général.
Alors ça, oui. Après, ça dépend où tu vas et comment tu...
Enfin, c'est dépend des plateformes. Après, voilà. Si on prend les plus grosses plateformes, en général, tu sais à quelle sauce tu vas te manger. Après, les autres, bon, ça...
Oui, il y a encore d'autres sujets. Et encore pour peu que tu puisses encore garder ton compte en banque et que tu puisses faire ta transaction aussi. Donc, bref, il y a un ensemble de frais où on va passer les détails parce que chacun sa mécanique. Bref, c'est bizarrement des gens qui vivent très bien.
Oui, c'est vrai. Pour venir du coup sur l'implémentation de l'offre crypto, ça a été... Il y a eu combien de temps, combien de mois se sont écoulés entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où le premier pays a été lancé sur l'offre crypto à peu près?
Je dirais moins de 6 mois.
Moins de 6 mois, oui. Donc c'était vraiment rapide.
Ça va, franchement, ça, c'est des choses où ça va extrêmement vite quand t'as... En fait, vraiment, à partir du moment où tu as le bon partenaire, donc qui a le bon niveau à la fois réglementaire et tech en face, honnêtement, une intégration, ça se fait extrêmement rapidement chez nous. C'est 3-6 mois. J'ai encore 6 mois, je pense que je donne la fourchette large parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de discussions. Mais la réalité, en termes d'exécution, c'est que ça va bien plus vite. Et ça, on l'a fait plusieurs fois. On sait que ça va extrêmement vite.
Ok. Et niveau fonctionnalité, d'ailleurs, donc aujourd'hui, on peut acheter et vendre des cryptos. D'ailleurs, c'est que en euros ou on peut aussi acheter, je sais pas, versus des stablecoins, parce qu'il y a vraiment un vrai sujet lié à la fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu transformes, tu swaps des cryptos en euros, c'est considéré comme un fait générateur, en tout cas en France, et donc tu payes après la flat tax par-dessus.
Aujourd'hui, c'est que l'euro, mais bien sûr, on va continuer à regarder et faire évoluer le produit. Ça, c'est, on a aussi cette mentalité de boîte tech, ça c'est AV1, mais bien entendu, le but, c'est de faire évoluer. Donc ça vient aussi des deux côtés, parce qu'on dépend aussi de Bitpanda.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, est-ce que vous, niveau fonctionnalité, vous êtes limité par votre partenaire? Ou après, peut-être qu'à terme, il y a possibilité d'intégrer d'autres partenaires. Je pensais par exemple au stacking. Dans ce cas-là, il y a des partenaires dédiés à ça. Je pense à Kiln en France, mais il y en a sûrement d'autres, pour justement proposer des fonctionnalités qui ne sont pas proposées par Bitpanda ou dans l'accord que vous avez avec Bitpanda.
J'ai pas le détail de l'accord, pour être très, très transparent avec toi. Mais de toute façon, ça, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je pense que pour tout le monde, et vraiment notre approche, c'est comment est-ce qu'on peut simplifier pour tout le monde. Là, tu commences déjà à rentrer dans des choses qui sont, qui sont un peu plus pour les spécialistes, et ce n'est pas notre corps de métier pour le moment. Mmh.
Mais c'est vrai que bon, tu dis, bon, maintenant que j'achète des cryptos, et qu'en plus je ne peux pas les sortir, peut-être que si je peux avoir un rendement dessus, en appuyant sur un bouton, bon, c'est cool d'avoir du staking ou du lending.
Alors, si tu veux du rendement, on a lancé dans différents pays, et ça arrivera bientôt en France aussi, de l'épargne. Hein, donc, beaucoup plus simplement, tu n'as pas besoin de passer par de la crypto.
Ouais.
Tu peux pas, mais ça, c'est,
et tu veux te réexposer peut-être et effectivement avoir du... Donc, mais bon, c'est des fonctionnalités qui arriveront plus tard.
Mais je pense que ça arrivera plus tard. Et je pense que nous, vraiment, notre métier, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer... Parce que l'éducation financière en France, elle est encore extrêmement faible en fait, par rapport à l'ensemble des pays au sens large. Donc, il y a encore beaucoup de travail, ne serait-ce que pour détricoter ce qui existe en France sur l'ensemble des produits. Donc la crypto, c'est un aspect, hein, mais l'ensemble des produits, quand tu regardes un petit peu comment ça fonctionne l'épargne, comment ça fonctionne l'investissement, il y a encore un petit peu de travail, tu vois. Donc aujourd'hui, quand tu te dis, waouh, il va falloir que j'aille voir mon banquier, tu te dis, ça va être compliqué, il va essayer de me vendre des trucs avec des noms que je ne comprends pas, avec des coûts qui sont absolument incompréhensibles, et je ne sais même pas, à la fin, de toute façon, c'est toujours le client qui perd. Non, mais c'est la réalité de la philosophie d'une banque traditionnelle. Donc là, nous, notre métier, c'est comment est-ce qu'on va simplifier ça. Donc on le fait sur la crypto, de façon très simple, encore une fois, c'est notre approche, c'est... J'ai jamais acheté de crypto de ma vie. J'ai un compte N26 où j'ai pas de compte N26, mais je veux juste acheter des cryptos de façon très simple et regarder comment ça marche et mettre un petit peu de côté et puis de temps en temps échanger un petit peu. Bah oui, N26 c'est le bon acteur. Si demain tu veux commencer à faire du stacking et autres, c'est pas chez nous. Mais notre objectif, c'est simplement d'expliquer très simplement au client comment ça marche.
Ok. Du coup, une fonctionnalité que je vois qui pourrait peut-être arriver plus tôt alors, c'est par exemple la possibilité de faire des achats récurrents en crypto pour constituer une sorte de, je sais pas, de livret d'épargne version crypto.
Je sais pas si c'est directement dans crypto, mais on a déjà cette fonctionnalité déjà de mettre au moins de l'argent de côté systématiquement, alors de façon régulière. Donc déjà, ça te permet de mettre de l'argent de côté, et aussi même quand tu reçois ton salaire, déjà de le splitter dans ce qu'on appelle des espaces.
Ouais.
Donc on est ce qu'on appelle ça l'income sorter. Donc on était déjà capable de, quand tu reçois ton salaire, de mettre directement X argent dans différents espaces. Je ne sais pas si on l'a relié directement aux cryptos, mais typiquement, ça, c'est des choses où ça, c'est vraiment de la fonctionnalité qui arriveront assez rapidement. D'ailleurs, si on a la demande, on sera heureux de le faire.
Ok. Et alors, tu parlais d'investissement. Est-ce que c'est dans votre roadmap de permettre, dans la lignée de la crypto, de permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter de l'or, des actions, et de vraiment devenir une plateforme un peu d'investissement, mais un peu pour les traders, mais pour les personnes qui veulent investir une partie de leur salaire.
Exactement, bah, t'as tout compris. Et c'est ce qu'on a lancé déjà. Alors, je ne sais plus dans quel pays on a déjà lancé le trading.
D'accord.
Donc, un peu de la même façon. Donc, encore une fois, de façon extrêmement simple. Mm-hmm. Dans l'application, j'ai vu la démonstration en interne. Donc, je sais que c'est sorti dans quelques pays, et on va le lancer aussi en France. Bah, encore une fois, t'es dans ton application de façon extrêmement simple. Tu veux acheter une action Amazon, Apple, parce qu'au final, je suis pas sûr que les gens savent très bien ce que c'est qu'Essilor. Par contre, ils savent beaucoup plus ce que c'est qu'Amazon ou Apple. Et donc aussi, encore une fois, comment est-ce qu'on est capable de le faire de façon extrêmement simple, du bout du doigt et de façon extrêmement transparente. Donc ça, on l'a déjà lancé dans certains pays. Ce qu'on a fait pour crypto en France, on veut aussi le faire pour le trading. Donc simplifier finalement l'investissement et simplifier la finance au sens large. Bah, tu veux acheter une action, bah, du bout du doigt. Et d'ailleurs aussi, ça c'est une des innovations, c'est que t'es pas obligé d'acheter, qu'on voit notamment dans les cryptos, t'es pas obligé d'acheter une action entière.
Ouais, parce que c'est vrai qu'une action Amazon aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre à peu près peut-être de 2 000 $, quelque chose comme ça, effectivement.
Donc c'est des choses où, bah non, justement,
c'est action fractionnée.
Là, tu commences à innover, et là où une banque traditionnelle, bah non, c'est compliqué.
Ouais, c'est intéressant. Mais alors, la question qui se pose aussi, c'est est-ce que t'es vraiment propriétaire de l'action? Parce que, alors, je apprends en suspens ce que je vais dire, hein, mais je crois que quand tu achètes par exemple des actions sur eToro, il me semble que t'es pas propriétaire de l'action. Et que c'est eToro, je crois, qui est le propriétaire.
Après, il y a des complexités qui sont même liées aux différents setups réglementaires, aux différents types d'actions. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais ça dépend de beaucoup de choses.
Ok. Pour venir du coup sur le lancement de cette offre crypto, c'est quoi un peu les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que je suis sûr qu'il y en a où ça s'est vraiment fait de façon... Non, ça a été très simple.
Les seules difficultés, enfin c'est même pas des difficultés, c'est le seul travail que ça nous demande en plus, C'est sujet de localisation, donc mécaniquement s'assurer. Alors c'est petit, peut-être la seule difficulté, c'est que la réglementation, notamment sur le marketing, elles sont différentes dans les différents pays. Donc c'est typiquement ça aussi, c'est pas harmonisé au niveau européen, mais s'assurer justement qu'il y ait le bon niveau d'information et aussi que tu peux pas faire du marketing de la même façon ou dire la même chose dans les différents pays. Donc ça nous demande un petit peu de travail en interne. Ouais.
Ok. Et d'ailleurs, donc tout à l'heure on parlait de la réglementation MiCA. Donc c'est vraiment la réglementation européenne qui va encadrer les crypto-assets dans l'ensemble de l'Europe. Ça a été quoi ou ça va être quoi l'impact de la réglementation MiCA sur votre activité à vous?
Franchement, c'est déjà pris en compte, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus des aspects réglementaires intrinsèques. Mais aujourd'hui, c'est compliqué si tu n'es pas régulé. Nous, aujourd'hui, mécaniquement, on est une banque, on fait les choses de façon extrêmement carrée, avec un acteur qui est lui-même régulé. Aujourd'hui, l'impact, il ne sera pas majeur et ce n'est pas des vrais sujets. Enfin, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas un sujet qui a un impact complexe chez nous.
Ok. Alors, moi, une question que je me posais, mais en fait, peut-être que c'est Bitpanda qui gère ça et pas vous directement. Avec la réglementation MiCA, tu vas avoir des stablecoins qui commencent à être délistés des plateformes d'échange en Europe, en tout cas. Donc, je pense à OKEX, par exemple, qui a délisté pour les clients européens l'USDT, parce qu'il n'est pas MiCA compliant. Je ne sais pas comment ça se passait pour l'USDC, mais est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que Bitpanda va délister l'USDT?
Je ne peux pas parler pour eux, mais eux, ils sont obligés mécaniquement, ils sont tenus de respecter aussi la réglementation. Donc, la façon dont ça se passe, c'est eux qui sont tenus de respecter la réglementation, donc de regarder ça. Nous, on regarde aussi, parce que mécaniquement aussi, c'est important de s'assurer que des deux côtés, tout fonctionne bien, mais... Si c'est pas compliant, malheureusement, c'est des choses qui seront obligées d'être faites.
Ok, c'est intéressant. Mais du coup, pour revenir à Bitpanda, parce que c'est vrai que c'est un acteur, un partenaire stratégique pour vous. Déjà, une question que je me posais, c'est est-ce que vous avez fait ce partenariat avec Bitpanda pour justement, on va dire, bootstrapper le lancement de l'offre crypto sur N26? Mais est-ce que c'est du long terme ou est-ce que vous n'avez pas intérêt, vous, en fait, à remonter la chaîne de valeur pour gagner plus d'argent et vraiment maîtriser le produit, à terme, développer votre propre infrastructure pour proposer de la crypto? Ou c'est encore trop tôt pour...
C'est trop tôt. Ouais. Objectivement, et ça, on l'a appris aussi, le retour d'expérience qu'on a eu, pas nécessairement sur la crypto, mais sur l'ensemble des produits, c'est que développer des produits soi-même, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, déjà, il y a la partie bootstrapping. On n'a pas cette expertise et c'est une expertise en soi d'être capable de fournir des cryptos. Donc ça, en l'occurrence, on est très content de travailler avec Bitpanda. Après, pour remonter dans l'échelle de valeur, aujourd'hui, pour nous, sans trahir de secret, c'est pas un sujet pour nous aujourd'hui. Après, on se posera la question dans quelques années. Comme dans n'importe quelle industrie, tu as envie de te poser la question de remonter la chaîne de valeur. Aujourd'hui, le sujet, il est pas là. Pour nous, c'est beaucoup plus des sujets de comment est-ce qu'on est capable de continuer à développer notre offre de produits, donc l'élargir avec le trading, l'épargne au sens large. L'élargir en termes de pays. Donc aujourd'hui, continuer à développer notre offre dans les différents pays en Europe et attirer un maximum de clients. Remonter l'échelle de valeur, aujourd'hui, on ne se pose pas cette question-là.
Ok. Et d'ailleurs, pour venir sur la gestion des fonds, donc aujourd'hui, comme vous avez ce partenariat avec Bitpanda, moi, quand j'achète de la crypto sur N26, la crypto en question, elle est stockée par Bitpanda ou par N26 Par Bitpanda. Donc c'est vrai que, est-ce que vous vous informez du coup les utilisateurs sur le risque, qu'il y a un risque de défaut potentiel de Bitpanda, comme tous les exchanges finalement.
Comme tous les exchanges, tout est super transparent là-dessus. Je pense que c'est là où on se distingue quand même de la plupart des acteurs. On explique aussi que c'est avec un partenaire extérieur. Enfin, tu vois, on fait pas de la marque blanche pure. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont quand même extrêmement clés. Ouais.
Ok. Alors peut-être je vais dire des bêtises, mais il me semblait que pareil, pour Evolut, je crois qu'ils ont ce partenariat avec Bitstamp, il me semble. Et donc, pareil, c'était indiqué à vérifier, parce que j'avais checké il y a quelques temps, mais ça a peut-être évolué. C'est quoi votre vision, du coup, côté produit sur la crypto? Vous allez voir en fonction des demandes clients? Vous avez déjà un peu une idée en tête quand même de d'où ça va aller
Alors, d'où est-ce que ça va aller déjà la stratégie aujourd'hui, c'est de le lancer dans l'ensemble des pays, sans trahir de grands secrets aussi, de continuer à finaliser le produit aussi. Hein. Donc, typiquement, tu en as parlé un petit peu, mais il y a des sujets de fiscalité. Donc, aussi, fournir l'ensemble des bons relevés à nos clients. Donc, il y a tous ces sujets-là qui ont l'air annexes, mais qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, on verra, c'est pas encore défini exactement comment on voudra faire évoluer le produit. Ça va dépendre des retours des clients, ça va dépendre de l'évolution du marché aussi, hein, peut-être, ou de la réglementation. Mais aujourd'hui, pour le moment, on est d'abord on est dans la première phase. Après, dès qu'on aura un peu plus de retour d'expérience, on continuera à faire évoluer le produit. Mais aujourd'hui, et surtout typiquement sur un produit comme crypto, les cryptos, malheureusement, on n'a pas une roadmap de 5 ans parce qu'on sait que les choses vont évoluer beaucoup plus rapidement et que ça ne sert à rien même d'avoir une roadmap à 5 ans pour le moment, en fait.
Ouais, non, ce qui est cool, justement, c'est que vous avez cette flexibilité pour, j'imagine, pour aller là où vous voulez. Je te propose de partir un peu sur l'organisation interne. Déjà, moi, ça m'intéresse de savoir c'est quoi un peu ton quotidien, c'est quoi tes grandes tâches au quotidien. On rappelle, hein, t'es directeur général de la France et du Benelux. Donc, Benelux, c'est Luxembourg, Pays-Bas et Belgique.
Et Belgique, ouais.
Du coup, c'est un peu, à quoi ressemble un peu ta vie chez Ententis
Moi, j'ai ma grande... Enfin, c'est pas une blague, mais disons que le lundi à 16h, si ma semaine n'est pas entièrement remise en question, c'est qu'il y a quelque chose dont je suis pas au courant. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux semaines pareilles, deux journées pareilles. La réalité, c'est qu'on a toujours beaucoup de sujets. Donc, maintenant, et mon travail a beaucoup évolué. Hein. Quand j'ai commencé chez N26, j'avais un bâton de pèlerin et je prêchais pour N26 parce que personne ne connaissait et que c'était extrêmement simple. Maintenant, on a une équipe à Paris, on a des vrais sujets opérationnels. Donc, c'est vraiment des sujets à 360 qui commencent mécaniquement par la réglementation, parce qu'en France, on a une succursale, donc je suis managing director de la succursale en France. Hein,
t'es le responsable légal, ça veut dire, j'imagine.
Notamment, donc ça veut dire beaucoup de sujets réglementaires à gérer, hein, donc s'assurer que justement tout est bien géré, il y a tout un framework réglementaire pour ça. Donc je passe beaucoup de temps sur ces sujets-là. Après, il y a des sujets opérationnels qui sont à la fois s'assurer que ça fonctionne, et mécaniquement, la best practice, c'est qu'il faut, plus tu grossis, plus il y a forcément des choses qui cassent et qu'il faut refaire et reconstruire opérationnellement. Donc, en interne et aussi en externe, hein, parce que mécaniquement, plus on va grossir, plus aussi on aura tendance à notamment externaliser certains process. Donc, il y a toute cette partie de s'assurer que ça fonctionne bien et comment est-ce que tu es capable de scaler. Après, il y a tout l'aspect opérationnel pur d'un manager. Hein, donc, ça veut dire avoir une équipe à Paris, gérer les personnes, s'assurer que tout le monde va bien, tout le monde est content. Et forcément, en France, on est français. Et après, les aspects plus à 360, hein, parce que il faut la France, ça reste la France ou le Benelux. C'est comment est-ce qu'on est capable de s'intégrer, donc. Par rapport à l'ensemble des pays, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de trouver le plus grand dénominateur commun à l'ensemble des pays pour avoir le minimum de localisation à faire. Donc, ça veut dire... Parce que mécaniquement, oui, si tu veux construire une banque, tu te dis ouais, « c'est génial, il va falloir que je fasse tout à la française et tout ». La réalité, c'est que notre force aussi, c'est d'être européen, c'est comment est-ce qu'on est capable... Donc, je passe beaucoup de temps avec mes alter-ego des différents pays et différents leaders des fonctions sur comment est-ce qu'on est capable de minimiser en fait le besoin de localisation pour la France et justement être capable de maximiser les ressources aujourd'hui. Et ça, peut-être on n'en a pas parlé avant, mais l'équipe qui a lancé la crypto en France, c'est la même équipe qui a lancé dans l'ensemble des pays en Europe.
Justement, j'allais te poser la question, vous avez une équipe vraiment dédiée à la crypto, j'imagine, mais elle fait quelle taille à peu près cette équipe
C'est une équipe standard avec une équipe produit. Alors, je ne connais pas le détail exactement de combien ils ont d'ingénieurs, mais c'est une équipe qui, justement, ils ont leur équipe back-end, front-end,
avec un product manager.
Même deux, je pense. Des équipes qui enfin vraiment une équipe standardisée là-dessus, donc produit. Une équipe qui est plus business aussi oriented, donc qui aide l'équipe produit justement à gérer le partenaire extérieur et tous les aspects de project management au sens large, hein, parce que c'est pas simplement que lancer le produit d'un point de vue technique, hein, il faut aussi s'assurer avec les équipes de back-office. Si un client a une question, il faut que le service client ait la réponse à la question. Donc il faut s'assurer que ça soit la bonne réponse et qu'elle soit standardisée. Et ensuite, ils le font pour l'ensemble des pays, donc avec certains niveaux de réglementation qui peuvent être un tout petit peu différents d'un pays à l'autre.
Ok, donc j'imagine qu'il y a quand même peut-être un... Est-ce qu'il y a un responsable d'ailleurs crypto dans chaque pays, genre en France, un responsable crypto?
Non, justement, c'est la même équipe centralisée qui le fait pour... Mais par contre, ils viennent venir nous voir et nous dire...
Voilà, pour la traduction, ne serait-ce que
Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va regarder d'un point de vue juridique et réglementaire, d'un point de vue expérience utilisateur, bah oui, mécaniquement, quand tu as des clients français, bah, il va falloir leur traduire et leur traduire bien et le faire de façon extrêmement simple. Il y a toute la communication qui va aller avec ça, donc produire aussi toute la communication, toute la partie pédagogique sur nos différents supports, ça c'est beaucoup plus localisé, mais l'idée c'est d'avoir vraiment ça marche pour chacun de nos pays, nos produits, avoir des équipes qui construisent le produit, on leur donne simplement nos specs, donc de quoi on a besoin, et puis après eux ils s'en occupent pour l'ensemble des pays.
Ok, et après j'imagine qu'ils priorisent quand même selon les pays, enfin j'imagine qu'il y a quand même une...
Alors ça c'est la grande tambouille interne de quel pays on priorise, c'est très politique, ça dépend des sujets, ça dépend de beaucoup de choses, typiquement aujourd'hui, sans trahir de grands secrets aussi, comme beaucoup de boîtes de tech et beaucoup de boîtes tech, il y a des vrais sujets de rentabilité, hein, parce que le monde a changé et on a tous une obligation maintenant de s'orienter vers la rentabilité. Donc, un des premiers prismes qu'on va regarder chez nous aujourd'hui, c'est notamment des sujets de rentabilité. Donc, les plus gros marchés, les marchés où on pense que ça va avoir le plus d'impact et ainsi de suite, donc, pour la crypto, mais pour l'ensemble des pays d'ailleurs.
Ok. Et alors, donc j'ai l'impression que tu as des journées bien chargées, parfois qui ont, tu ne sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger. C'est quoi un peu les grandes galères que tu as rencontrées ces derniers mois?
Il n'y a jamais de galère, il n'y a que des solutions. Non, je pense que aujourd'hui on fait beaucoup d'internes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on optimise avec les ressources qu'on a, parce que mécaniquement... On nous voit peut-être probablement comme une licorne qui vaut 9 milliards, qui a 1500 employés, mais en fait, quand on résume 1500 employés pour 24 pays, l'ensemble des produits qu'on a, l'ensemble des opérations qu'on a, je peux t'assurer qu'on a encore... on passe beaucoup de temps à notre challenge, c'est comment est-ce qu'on fait plus, mieux, avec le même nombre de personnes. Donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Je pense que notre travail est vraiment axé là-dessus.
Ouais. Ok. Est-ce que pour la fin, tu voudrais partager une anecdote ou un message? C'est un peu la carte blanche.
Une anecdote, là, c'est comme ça que j'ai commencé l'interview. C'est de temps en temps, les jobs n'existent pas, il faut se les créer. Donc le mien, je me le suis créé. D'ailleurs, j'ai même changé mon titre. Je me souviens, j'ai été embauché comme country manager. J'ai été voir Valentin à l'époque, je lui ai dit non, general manager c'est mieux. Un quart d'heure plus tard, j'étais general manager parce que c'était mieux, mais il y avait pas, c'était
c'est la même chose.
C'est la même chose. Mon job a évolué entre temps, mais comme ça qu'on a changé. Sinon, quoi d'autre comme anecdote? Ils vont me tuer à l'AFP si je dis ça, mais à l'époque qu'on avait lancé N26, je ne connaissais pas encore les journalistes, donc j'avais appelé le standard de l'AFP.
Okay.
Et j'aurais dit, écoutez, on va lancer N26. Enfin, est-ce que je pourrais parler aux journalistes qui gèrent la finance? Et ils m'ont répondu, mais tout simplement parce que j'ai appelé le standard, en fait.
Okay.
De temps en temps, prendre ses mains, son téléphone, et essayer. En fait, le meilleur conseil, essayer.
Est-ce que tu as encore le numéro de téléphone de l'AFP pour le dire ça?
Je ne vais pas le dire, mais bon, il faut juste essayer, pas nécessairement avec l'AFP, mais de manière générale. Moi, il y a plein de choses où on a pris notre téléphone et on a appelé les différents régulateurs, on a appelé les choses et on l'a fait nous-mêmes. En fait, il faut juste de temps en temps, ce n'est pas une question de fonction, c'est juste une question de faire soi-même, de comprendre et franchement, tout est possible.
Et d'ailleurs, quand tu as contacté les régulateurs au tout début, est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux quand tu disais que tu lançais N26 en France, sachant que c'était déjà une banque déjà bien en place, donc...
Alors, quand j'ai lancé N26 en France, ça restait quand même sans employés en Allemagne. On venait d'avoir notre licence bancaire, donc qui est quand même un vrai élément clé dans la croissance et un milestone c'est aussi beaucoup d'obligations. Mais typiquement, ils sont peut-être qu'ils nous écouteront, mais la CPR a été très vite très réceptive. En plus, je pense qu'en plus, ils venaient de créer la CU FinTech à l'époque, donc il y avait vraiment une vraie volonté nous on n'était pas nécessairement suivis par cette cellule là mais clairement il y avait une vraie ouverture vers les nouveaux acteurs sur comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça doit marcher, non, on a très vite été reçus, on a très vite expliqué nos sujets, littéralement quasiment depuis le premier jour on a toujours eu des très bons échanges avec eux, donc au contraire, je pense que je connais pas les autres pays, mais en tout cas, vraiment, la discussion et c'est toujours très bien passé depuis le premier jour. Ouais.
Ok, d'ailleurs, tu pourrais expliquer ce que c'est la CPR et est-ce que tu es encore. Enfin, j'imagine que oui, hein, tu es en contact régulier avec eux sur la partie régulation, bien sûr. J'imagine que toutes les semaines, tu dois leur parler.
Alors, la CPR, à chaque fois, je me trompe sur l'acronyme. Moi aussi. L'acronyme, question piège.
On mettra.
Alors, c'est plus simple. La CPR, pour faire simple, on les appelle les gendarmes des banques. La réalité, et c'est pour ça aussi de préciser ce qu'ils font, en fait, la CPR. Leur mandat, en fait, c'est de s'assurer que le système bancaire fonctionne bien et que les clients soient protégés. Parce que souvent, on les perçoit comme des gens qui sont là pour être tatillons et pour embêter les banques. Non, la réalité, c'est que le mandat de la CPR et du régulateur, c'est de protéger le système bancaire. Et on s'est rendu compte typiquement en 2008 que c'est compliqué. Et faut pas oublier que typiquement depuis 2008, les gens ont toujours confiance dans la banque. Donc ça veut dire qu'ils protègent bien le système bancaire. Et le deuxième, c'est de protéger les clients, donc de mettre en place des garde-fous qui font que justement les banques vont protéger les clients. Donc ça, c'est important de bien comprendre ces missions-là. Moi, avant, je travaillais chez Burger King. C'est tout aussi réglementé. Simplement, le régulateur, il s'assure que les restaurateurs ne tuent pas leurs clients avec de la nourriture avariée. Là, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment un acteur qui est extrêmement important. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un acteur, en fait. C'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble de groupes, en fait, où en fonction des sujets, on va avoir différents interlocuteurs. Donc on travaille main dans la main sur chacun des sujets, mécaniquement, donc c'est pas juste une personne, en l'occurrence, c'est beaucoup de différentes équipes, en fait, avec qui on va travailler, qui vont dire, typiquement, il vaut mieux faire les choses de cette façon-là, et ainsi de suite. Donc on travaille main dans la main en France et dans les différents pays, et oui, on a beaucoup d'équipes, franchement, ça, c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main et pas du tout de façon conflictuelle comme on pourrait le voir forcément dans la presse. On a envie de voir ça de façon romancée et très compliquée. Non, la réalité, c'est que tout le monde veut s'assurer, en fait, que ça fonctionne bien.
Ça marche. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérémy.
Génial, merci beaucoup.
Avec plaisir.